protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.
Bonjour à tous, protestants au pluriel, Yolande au micro pour vous faire découvrir la richesse du protestantisme français. En effet, nous allons à la rencontre des églises et membres de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la Fédération des églises évangéliques baptistes de France, représentée par son secrétaire général, Éric Le Guéhennec. Bonjour Éric Le Guéhennec. Alors, on va commencer par être très simple sur l'identité de votre église. Est-ce que vous avez un slogan ?
Un slogan, oui, nous en avons un. C'est « Vivre et proclamer l'évangile ensemble ».
Et un verset biblique qui vous tient à cœur ou plusieurs
Oui, un verset biblique qui me tient à cœur. Moi, j'aime beaucoup l'image du corps qu'utilise Paul. Et en Romains 12, il est écrit « Tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, et que toutes les parties du corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ. » Et nous faisons tous partie les uns des autres.
Votre rôle personnel dans cette église, alors vous êtes secrétaire général, qu'est-ce que ça implique ?
C'est un poste où on est à plein temps, je ne suis pas en charge d'église. Et puis je fais l'articulation entre le conseil national et puis la mise en œuvre des décisions qui sont prises. Et j'ai aussi une dimension importante dans la visite des églises et la visite et le suivi des pasteurs.
Alors, vous êtes une église historique. La date de création de votre église, ça remonte à loin.
Alors, la Fédération des églises évangéliques baptistes de France a été fondée en 1922. Mais avant cela, en 1906, il y avait déjà la Fédération des Églises Baptistes du Nord de la France, hein, d'où nous sommes issus. Et puis le baptisme est arrivé en France au XIXe siècle avec des missionnaires suisses, anglais et américains.
On va citer quelques chiffres, le nombre d'églises locales, le nombre de membres si...
Oui, alors aujourd'hui nous avons 114 églises réparties dans toute la France, beaucoup en région parisienne, pas mal dans le nord qui est le berceau, mais dans toute la France. Nous avons un peu moins de 6000 membres. Sachant qu'il y a plus de personnes qui assistent au culte régulièrement que de membres inscrits. Et puis, un chiffre qui est intéressant aussi, on a 150 pasteurs à peu près, en comptant les aumôniers et les pasteurs détachés qui sont pas en charge d'église, mais qui ont d'autres missions.
Alors, qu'est-ce qui vous distingue? Quelle est votre singularité dans le protestantisme?
Alors, notre singularité dans le protestantisme, déjà, on est une église évangélique, hein. C'est-à-dire que l'autorité de la parole de Dieu a une grande place. Également la mission, le désir d'implanter de nouvelles églises. Mais également, nous aimons, nous avons à cœur d'être un lien entre les églises protestantes historiques et les églises évangéliques qui peuvent être plus récentes. Ça se traduit pour nous par un double engagement à la fois à la FPF et au CNEF, et on tient vraiment à ce double engagement, à être aux deux endroits et actifs aux deux endroits.
Alors la FPF, on sait ce que c'est, puisqu'on en parle tout le temps dans cette émission, la Fédération protestante de France, et le CNEF, vous pouvez
alors,
dire ce
CNEF,
que c'est.
Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. C'est une instance beaucoup plus récente, hein. Elle a 15 ans. Et elle rassemble des évangéliques au sein d'un conseil national avec une confession de foi qui rassemble tout le monde et puis des projets communs.
Et Baptiste, alors vous pouvez expliquer aux auditeurs qui ne sauraient pas quel est qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ?
Ah oui, oui, le baptisme, c'est un mouvement ancien, hein, qui est presque aussi ancien que la réforme protestante. Il est né au au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, en Europe, en Hollande. Et puis, il est caractérisé par, on l'appelle baptiste, c'est en lien au baptême, par un baptême des croyants. C'est quelque chose qui est important, la détermination de chacun dans sa foi, un baptême des croyants et une liberté de religion, ce qui à l'époque était pas forcément évident, même si aujourd'hui c'est acquis au moins dans nos pays. Donc le baptême, la liberté de conscience, également le congrégationalisme. C'est-à-dire que les communautés se déterminent elles-mêmes pour les décisions qui sont importantes. Nous croyons que la volonté de Dieu s'exprime par l'ensemble des croyants réunis.
Et votre action principale, vous la trouvez où? Dans la prière, dans l'aide au prochain, dans la prédication, dans la mission? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur?
Alors, ce qui nous tient à cœur, c'est d'être Église. D'avoir des églises locales qui se rassemblent, qui créent et animent des communautés là où elles sont, qui impactent l'extérieur. C'est vraiment l'église qui est c'est-à-dire le rassemblement des croyants, qui est ce qui nous tient le plus à cœur.
On peut débattre de tout dans votre église, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont figées, dont on ne parle pas, ou dont on peut parler, mais qu'on ne peut pas vraiment débattre?
Alors, je répondrais qu'on peut débattre de tout, même s'il y a toujours des zones d'ombre et des sujets qu'on a plus de mal à adresser. Mais nous aimons vivre en notre sein la diversité. Alors cette diversité, elle n'est pas forcément théologique, mais nous avons une diversité dans l'expression de la foi. Dans notre fédération d'églises, nous avons à la fois des églises d'expression charismatique et des églises qui ont une expression traditionnelle sur une question qui est récente et qui a fait beaucoup débat, le ministère féminin. Nous avons des églises totalement ouvertes avec des pasteureux qui exercent, et d'autres églises qui pense que ce n'est pas possible et nous arrivons à cohabiter et à débattre comme cela. Même sur la gouvernance également, toutes les églises n'ont pas la même gouvernance. Si nous sommes tous congrégationalistes, il y a des églises où le pasteur est extrêmement présent, d'autres où le ministère de direction est partagé à plusieurs, et d'autres encore qui fonctionnent sans pasteur, soit parce que il y a un manque ponctuel, soit parce que c'est un choix de la part de cette église.
Si je comprends bien, dans ce qui vous motive le plus, c'est la liberté de conscience, c'est vraiment très important pour vous.
Oui, absolument. Absolument, ça c'est quelque chose qui nous motive, et cette liberté de conscience explique pourquoi l'évangélisation aussi, le partage de l'évangile, a de l'importance pour nous, parce que si chacun est libre, alors chacun doit aussi connaître l'évangile pour pouvoir choisir.
Donc la théologie a une très grande place dans votre église. Les études pour être pasteur sont longues, comment ça se passe?
Alors oui, la théologie a une grande place. Nous voulons que nos pasteurs soient formés avec un diplôme universitaire. Nous demandons généralement un master. Mais ça va plus loin que ça, parce que nous aimons aussi que les membres soient formés, puisque les membres participent à la vie de l'Église, et nous aimons organiser des formations pratiques pour l'exercice qu'ils peuvent avoir dans l'Église.
Et un message global que vous voulez apporter au monde?
Je crois que c'est le message de l'Évangile, hein, que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde, et c'est vraiment ce qu'on veut partager.
Alors maintenant, Éric Le Guéhennec, secrétaire général de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, on va faire la radioscopie de votre église, si vous voulez bien, c'est-à-dire qu'on va rentrer plus concrètement dans les détails. Alors, ça va être compliqué parce que comme vous êtes congrégationaliste, ça veut dire que chaque église a une latitude de faire...
Absolument.
Ça va être un peu compliqué. Mais enfin, on va essayer de s'en sortir. La forme du culte, en général, dans vos églises, c'est comment ? C'est sage ? Enfin, sage, dans un, comme une messe catholique où on écoute. Est-ce que c'est plus animé comme dans des mouvements charismatiques? Comment ça se passe?
Non, c'est généralement animé. Les chants qu'on va chanter sont des chants récents, mm-hmm. accompagnés par des instruments modernes. Les vêtements que vont porter aussi bien les fidèles que le pasteur, il n'y a pas de code vestimentaire et les gens peuvent être très détendus de ce point de vue-là. Je pense que la détente, le fait que les gens soient détendus, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qui caractérise. On a une grande latitude et des églises qui font des choses différentes. Il y a des églises qui sont très libre, avec plein de monde qui prend la parole. C'est quelque chose, ça, que nous aimons avoir d'une façon générale. C'est pas une personne qui prend la parole du début jusqu'à la fin du culte, mais la parole est répartie entre différents intervenants sur les différentes parties.
Même pour la prédication?
La prédication, ça va... Oui, beaucoup d'églises ont une équipe de prédicateurs, mmh. où le pasteur, bien sûr, est présent, mais d'autres prédicateurs réguliers sont présents. Dans certaines églises, le prédicateur prêche deux fois par mois, voire même moins quand l'équipe de prédication est particulièrement riche. Dans certaines églises, il prêche quasiment toutes les semaines. Ça dépend des charismes du pasteur et puis des compétences qu'il y a dans l'église.
Il y a une structure liturgique que vous conseillez aux églises, simple ou plus compliquée?
Non. Chaque église définit sa structure liturgique. Dans les faits, elle se ressemble beaucoup dans nos différentes églises. Hein. Les différents temps s'enchaînent plus ou moins de la même façon, avec un temps assez long consacré au chant, à la louange, à la prière.
Oui.
Une prédication, je dirais en moyenne, qui tourne autour d'une demi-heure. Et puis après, d'autres temps où on donne des nouvelles de l'Église, des annonces, des choses comme ça. Mais c'est les ingrédients qu'on va retrouver à peu près dans toutes nos églises.
Et qu'est-ce que votre Église apporte d'abord aux fidèles?
Ce qu'elle apporte, c'est, je dirais déjà, la parole. La parole à travers la prédication qui se base sur la Bible et qui va expliquer le texte de l'époque destiné à un auditoire de l'époque, mais qu'est-ce qu'il voulait dire à l'époque et qu'est-ce qu'il mmh. peut vouloir dire pour nous aujourd'hui. La parole, elle a besoin d'être actualisée. On peut pas juste la prendre comme ça parce qu'il y a au moins 20 siècles qui nous séparent pour les écrits les plus récents. Donc il y a besoin de comprendre ce qu'elle voulait dire à l'époque pour comprendre ce qu'elle peut vouloir dire aujourd'hui dans notre contexte. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on apporte, je dirais, le cœur du culte.
Et la fraternité, la communauté est importante pour...
Absolument. Ouais. Absolument. La communauté est importante. Il y a des longs temps après chacun de nos cultes. Hein, j'ai l'occasion de le voir en me déplaçant dans nos églises. C'est pas une fois qu'on a prononcé le Amen final que tout le monde se disperse, mais les gens aiment rester longtemps pour parler, fraterniser, se retrouver, échanger des nouvelles. Il y a beaucoup d'églises qui prolongent à travers des repas, des agapes, pas systématiquement, mais régulièrement, des après-midi ensemble qui peuvent être organisés. La vie communautaire est importante.
Et est-ce que cette vie communautaire ne vous rend pas suspect aux yeux de certaines parties de la société française qui trouveraient que, enfin, qui vous colleraient des préjugés à la peau, style vous êtes une secte parce que vous êtes très communautaire?
Ça a pu être le cas par le passé. Je crois qu'aujourd'hui, les évangéliques sont mieux connus. Donc on entend moins ce genre de reproches, ou quand on les entend, c'est généralement des personnes d'un certain âge qui n'ont pas évolué depuis cette époque où les évangéliques étaient suspectés de sectarisme. Et puis, la société évolue et je crois que beaucoup apprécient d'avoir ces temps communautaires. En tout cas, c'est le retour que nous avons. Il y a des gens qui, sans être croyants, sans se revendiquer comme croyants, apprécient de partager ces temps avec nous, ces temps communautaires, ces temps fraternels.
On peut se dire un croyant et participer au culte chez vous.
Oui. J'en connais un certain nombre.
Et à la société, qu'est-ce que vous avez conscience d'apporter ?
Alors, dans notre histoire, nous aimons être au service de la société, nous aimons avoir un impact social. Nous avons, à côté de la Fédération des Églises, nous avons l'ABEJ, l'Association Baptiste pour l'Entraide et la Jeunesse, et quasiment toutes nos églises, à côté de l'association 1905 qui gère le culte à une association 1901 qui a une action plus ou moins développée pour apporter des services autour d'elle. Alors des fois ce sont des choses très simples, hein, des rassemblements de jeunes qui sont ouverts sur l'extérieur, même si c'est principalement les jeunes de l'église qui sont là, mais d'autres églises mettent en place des choses plus structurées, des distributions alimentaires, des maraudes,
Des maraudes, c'est quoi ?
Des maraudes, ce sont des équipes qui se promènent dans la rue la nuit et qui prennent contact avec les personnes sans domicile, mm-hmm. parlent avec elles, distribuent éventuellement des denrées. Récemment, nous avons mis en place une opération sac à dos, hein, avec des milliers de sacs à dos qui étaient remplis de produits de première nécessité. Et les églises avaient la possibilité d'en commander pour aller ensuite les distribuer dans la rue, là où elles avaient leur lieu d'action.
Et votre relation aux autres, est-ce que vous considérez que Dieu est seulement en Jésus-Christ ou est-ce qu'on peut le trouver ailleurs ? Comment ça se passe avec les autres églises, notamment non chrétiennes ?
Alors, nous croyons que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Je n'appellerai pas les non-chrétiens églises. Les religions non-chrétiennes, oui, mais églises non-chrétiennes, mm-hmm. J'aurais du mal à les nommer ainsi. Ça ne nous empêche pas de dialoguer avec eux. Il y a pas d'ostracisme, mais je pense même à certaines églises, dans certains lieux, dans certaines villes. C'est pas parce qu'on ne partage pas la même foi qu'on n'est pas capable d'œuvrer ensemble. Je pense à une église qui a une action avec des musulmans pour aider des femmes qui sont à la rue et on se met ensemble pour travailler parce qu'il y a des gens qui ont besoin.
Donc, vous ne vous tenez pas à l'écart du monde, vous êtes dans le monde.
Absolument. C'est vraiment une conviction. Jésus est venu dans le monde et nous voulons être aussi dans le monde.
Alors, on a parlé de la place des femmes, donc vous avez été très clair dessus. Il y a des églises pour qui c'est sans problème, et puis il y a des églises pour qui la femme a une place, l'homme a une place, et on mélange pas les choses, si j'ai bien compris.
Absolument.
Pour les violences sexuelles et spirituelles, est-ce que vous avez été confronté au problème et est-ce que vous avez mis en place en amont si vous n'avez pas eu de problème ?
Alors, nous avons été confrontés au problème. Je crois que quand on atteint une certaine taille, c'est faire preuve de naïveté de croire qu'on n'est pas touché. Nous avons malheureusement eu l'occasion de voir par des drames que nous l'étions. Nous avons mis en place des choses, hein, et nous avons réfléchi théologiquement à la question, produit un ouvrage sur les violences conjugales, les dénoncer, avec des conseils pour les pasteurs sur comment traiter les choses, parce que même lorsqu'on est convaincu qu'elles n'ont pas lieu d'être, il faut pas partir tel un chevalier blanc parce qu'on peut faire des bêtises. Donc des lignes guides sur comment faire, et voilà, et cet ouvrage a été apprécié au-delà de notre fédération chez les évangéliques et chez les protestants. Donc oui, nous sommes actifs sur le sujet. Nous l'avons été et nous continuons à l'être à travers une équipe dédiée.
Est-ce que vous avez des défis ?
On a toujours des défis. En ce moment, quelque chose qui nous habite vraiment, c'est vivre ce qu'on appelle un congrégationalisme d'alliance. Le congrégationalisme peut être vécu comme un indépendantisme. Chacun dans son coin fait ce qu'il veut et puis on se retrouve de temps en temps. Mais nous voulons que ce congrégationalisme, ce soit vraiment une alliance les uns envers les autres, que nous nous soutenions, et que ce soit quelque chose de concret. Donc ça, c'est vraiment un défi. Comment continuer à la fois à vivre le congrégationalisme, que chaque église développe son projet, le vit de façon autonome, mais quand même que nous soyons en alliance, que si une église est en difficulté, l'autre se sent concernée pour l'aider, pour la soutenir, pour être à côté et avoir des projets ensemble.
Et concrètement, une femme qui est pasteur dans une de vos églises, et qui, comment elle vit le fait de ne pas pouvoir prêcher dans une autre ? Est-ce qu'il y a de la gêne de leur part ? Est-ce qu'elles en parlent ?
Oui, elles en parlent. C'est une situation pas facile. Néanmoins, on pose les choses au niveau de la fédération, c'est-à-dire qu'une femme qui est pasteur, elle est reconnue comme pasteur de la fédération. Et les églises qui ont un souci avec le ministère féminin doivent quand même reconnaître qu'elle est pasteur de la fédération.
D'accord.
Donc ces femmes sont pasteurs de leur église, pleinement reconnues par leurs collègues, même si les églises dans laquelle ils exercent ont des réserves par rapport à la question. Et la parole leur est distribuée de façon tout à fait équitable dans nos rassemblements nationaux, congrès, pastoral. Certaines sont présidentes de région. Donc voilà, officiellement, au niveau fédératif, elles ont une place pleine et entière. Je sais que certaines, ça les travaille plus ou moins, de savoir que dans certaines églises, elles ne sont pas pleinement accueillies. C'est une souffrance que nous partageons, que nous accompagnons.
Et vos projets, vous avez certainement des projets. Est-ce qu'il y en a un qui vous tient à cœur, qui est un ou deux très importants ?
Alors, nous avons un projet qui nous tient à cœur. Hein. Ça peut sembler un peu théorique, mais nous travaillons à la reformulation de notre vision. C'est-à-dire que nous voulons avoir un document clair qui explique ce que nous faisons ensemble, ce qui nous met en mouvement, là où nous voulons aller. Et c'est là que ça devient concret. C'est parce que ce document, non seulement liste nos valeurs, notre mission, qui nous sommes, mais aussi ce que nous appelons nos axes stratégiques, qui sont au nombre de 4 et qui vont être vraiment des priorités pour les années à venir. Et donc nos axes stratégiques, c'est favoriser l'émergence de leaders au sein de la jeunesse. Nous voyons vraiment un défi avec la nouvelle génération qui ne fonctionne pas comme les générations précédentes. Et donc, nous voulons vraiment l'inclure et voir comment trouver des leaders parmi elles. Favoriser l'émergence de la diversité de ministères. Nous croyons que le modèle une église, un pasteur, c'est un modèle qui s'épuise. Il y a des églises qui ont des projets ambitieux et qui souhaitent avoir plusieurs pasteurs avec des ministères spécialisés. Il y a des ministères qui se consacrent à avoir une portée translocale, pas seulement sur une église, mais sur plusieurs. Et donc vraiment, on veut favoriser l'émergence de ces nouveaux ministères plus riche, plus divers. Le troisième axe, c'est favoriser l'émergence des vocations pastorales et missionnaires. Comme beaucoup d'unions, on voit avec le départ des pasteurs ici du baby boom que nous manquons de pasteurs, et donc nous voulons encourager les vocations pastorales. Et puis le quatrième, c'est développer une culture missionnelle dans nos églises, missionnelle plutôt que missionnaire, hein, parce que le terme missionnaire désigne généralement ce que l'on fait au loin. Oui. Missionnel, c'est transmettre l'évangile au loin, mais aussi auprès, ouais, en parole et en acte. Donc avoir vraiment cette conscience du monde qui nous entoure, voir ce que nous pouvons lui apporter et le faire. Ne pas être une église repliée sur soi, mais être une église qui a conscience de l'environnement dans lequel elle est et qui a cette culture.
Et donc tout ça, c'est votre vision en fait, c'est les axes stratégiques pour une vision de, d'avenir de votre église.
Absolument.
Alors, on va faire une conclusion par rapport à la Fédération protestante de France. Vous faites partie de la Fédération protestante de France.
Oui.
Qu'est-ce que c'est pour vous, la Fédération protestante de France ?
Alors, ça représente beaucoup. Nous sommes à la Fédération depuis 1916 avec la Fédération des Églises Baptistes du Nord. Et quand la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes a été fondée en 1922, elle a tout de suite rejoint la FPF. Mmh. Nous sommes heureux de nous y impliquer. J'aime rappeler que la vice-présidente de la FPF est une baptiste, hein, Valérie Duval-Poujol. Et puis, nous contribuons aussi à travers l'aumônerie. Nous avons beaucoup d'aumôniers qui sont baptistes. Et c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir ces aumôniers qui sont témoignages là où ils sont, dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les prisons, et à l'aéroport également.
Et qu'est-ce que vous attendez des autres protestants ou de la Fédération protestante ?
De continuer à être ensemble, les uns à côté des autres, d'être dans le dialogue, dans le respect et dans le soutien également. Je crois que nous avons besoin de nous soutenir. On n'est pas d'accord sur tout et il y a des lieux pour en parler. Et puis, il y a des lieux pour se soutenir et pour faire corps.
Et ça descend au niveau local, cette, ce dialogue qui est au sein de l'AFPF. Est-ce qu'il arrive à se concrétiser dans le... au niveau des paroisses ?
Oui, absolument. Nos églises locales sont membres des pastorales locales. Alors, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, les appellations changent. Hein. Il y en a, ce sont des pastorales locales, certaines des pastorales FPF, d'autres des pastorales CNEF. Généralement, nos pasteurs vont à toutes ces invitations.
Eh bien, merci beaucoup Éric Le Guéhennec, donc secrétaire général de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. On peut trouver plus d'informations sur votre site internet ?
Oui, absolument.
Qui est ?
www.feebf.com.
Merci à Benjamin Bories et à son équipe pour la production. Merci à nos auditeurs de leur fidélité et à bientôt pour découvrir une nouvelle facette de Protestants au pluriel. Au revoir.
Au revoir.
Protestants au pluriel. Des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.